Le film que vous voulez de voir, que vous venez de voir, The Rider, a été réalisé par Chloé Zhao. C'était son deuxième film à l'époque. C'est une réalisatrice, comme je le disais, sino-américaine. Elle a passé son enfance et son adolescence à Pékin et elle a déménagé pour étudier d'abord en Angleterre, puis pour vivre aux États-Unis. Ces films ne sont pas sortis ou seulement sous le manteau en Chine, ont été souvent très critiqués, notamment à cause de ses positions et de ce qu'elle dit de la Chine. Mais voilà, donc ces films sont globalement américains, produits par des compagnies américaines, même si elle est coproductrice d'ailleurs de ces films. Elle réalise un premier film en 2015 qui a un certain succès d'estime. C'est vraiment un film indépendant type qui a un parcours de festival et qui l'a fait connaître, qui sort en France, qui passe au Festival de Cannes, etc. Et The Rider va être le même événement mais en beaucoup beaucoup plus grand. Le film va être beaucoup plus vu, va passer encore plus dans des festivals alors qu'il se déroule dans le même univers. Il va même avoir le label Barack Obama puisque Barack Obama va dire que c'est un de ses 10 films préférés de l'année. Il faisait des listes à l'époque de ses films préférés. Donc le film va vraiment lui ouvrir les portes d'Hollywood, du Hollywood officiel, pas seulement du cinéma indépendant américain, et va lui permettre de faire deux films. Parallèlement, donc Nomadland, un film que vous avez peut-être vu, qui a remporté les Oscars. C'était la deuxième femme à remporter l'Oscar de la meilleure réalisatrice, hein, seulement. Quasiment 80, 90 ans, 85 ans. Donc bon, c'est quand même intéressant. C'est par ailleurs un film auquel elle a eu le Lion d'Or. C'est un film qui a été développé pendant 6 mois, tourné pendant près de 6 mois avec Frances McDormand, où là, le fondement du film, c'était de suivre une sonde de missile fixe. Alors, bon, comme tout le monde le sait, Frances McDormand, c'est, elle joue pas son vrai rôle, puisque ce n'est pas du tout une sonde de missile fixe. C'est la femme d'un des frères Cohen et elle joue dans les films des frères Cohen. Donc, elle a demandé à Frances d'accompagner dans ce voyage et de suivre le vrai voyage et de rencontrer des vrais sans domicile fixe pour voir justement ce que c'est que le nomadisme à l'ère du capitalisme. Qu'est-ce qui reste à ces gens qui n'ont rien et qui voyagent de petit job en petit job aux États-Unis? Donc c'est à la fois un film qui a l'air complètement opposé dans le fonctionnement de The Rider ou des chansons que mes frères m'ont apprises, puisque ce sont deux films qui sont uniquement dans la réserve. Je reviendrai tout à l'heure sur cette réserve, dans cette réserve indienne. Au contraire, c'est un film nomade, mais en réalité, dans la façon de fabriquer le film, il y a beaucoup de points communs. Par contre, elle a fait en même temps, suite au succès de The Rider, on lui a proposé de réaliser un Marvel, ce qui peut peut-être intéresser vos élèves, qui s'appelle Eternals, les Éternels, et qui a, alors bon, je l'ai vu du coup, c'est pas un film extraordinaire qui mériterait qu'on s'y attarde, mais quand même, il y a quelques petits points qui peuvent être intéressants. D'abord, c'est le film de Marvel le plus woke possible, c'est-à-dire que vous n'avez pas un seul des super-héros qui soit de la même origine. Vous avez deux noirs, deux indiens, une chinoise, une mexicaine. Enfin voilà, les blancs sont vraiment la minorité du film. Donc c'est intéressant d'avoir déplacé finalement ces films de héros. C'est souvent des problèmes d'hommes blancs. Et là, ce sont plutôt des femmes les héroïnes et ce sont plutôt des gens racisés, comme on dirait aujourd'hui. Alors, en plus, le film a fait couler un peu d'encre parce que dedans il y a un baiser homosexuel. Donc, c'est vraiment un film à l'intérieur de Marvel qui montre l'évolution de la société américaine, comment finalement rendre compte de toutes les diversités possibles. Donc, il y a une sorte de patchwork. Donc, ça, c'est un premier élément qui est intéressant. Rappelons, voilà, je vous rappelle encore une fois qu'elle est sino-américaine, donc elle a les deux, et que évidemment la question de l'étranger, des racines et de comment on est considéré ou pas est intéressante à ses yeux et dans ses films. Et il y a une deuxième chose aussi qui est intéressante dans le film, c'est la question du paysage, c'est-à-dire qu'elle a tenu pour ce film de super-héros à tourner le plus possible dans des vrais paysages. Donc il y a une partie du film qui est tournée aux îles Canaries, et c'est pas donc des paysages d'effets spéciaux créés par ordinateur, mais un rapport au paysage, et peut-être qu'on peut tisser un lien entre The Rider et les paysages et les Éternels. Et enfin, il y a un dernier lien qui me semble intéressant, peut-être plus fondamental, c'est qu'au fond, est-ce que les cow-boys, c'est pas les super-héros d'antan? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose cet ordre-là sur l'héroïsme, un héroïsme qui est associé dans l'histoire des États-Unis à une virilité, à la masculinité, au chapeau, au revolver évidemment, au fait de dompter quelque chose, dompter la nature, dompter un cheval, et finalement ces super-héros qui essayent de dompter le pouvoir du mal et de faire en sorte que les êtres humains puissent vivre en paix. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose finalement de cow-boy moderne ou post-moderne? Voilà, ça peut être intéressant en tout cas sur l'héroïsme et la virilité. Elle est par ailleurs en train d'ailleurs de préparer un Eternals 2, donc il va y avoir une suite, et elle est aussi en train de préparer un autre film beaucoup plus indépendant sur le premier shérif noir aux États-Unis. Donc on retrouve à la fois un souci de regarder les autres communautés, de travailler sur ce que sont vraiment les États-Unis dans leur diversité, et en même temps sur les mythes fondateurs du western. Alors, comme tout à l'heure, la structure, je ne sais pas si vous pouvez bien lire, là c'est écrit un peu petit, mais vous aurez encore une fois le document, vous aurez un lien qui vous permettra d'aller voir et les extraits et le PDF ici. Donc vous pouvez facilement le récupérer. Vous avez le droit de prendre des photos aussi si vous voulez, hein. Donc la structure du film, j'ai séparé en trois actes. Le premier acte, ce serait l'idée que Brady est un cow-boy au passé. C'est tout. Ce qu'on appelle le premier acte, c'est ce qu'on appelle l'exposition. Donc, on expose le personnage, on montre son problème. Il a été un cow-boy, il n'est plus un cow-boy parce qu'il a eu cet accident. Et donc, on voit sa convalescence, on voit son mode de vie, le rapport un peu de douloureux avec son père, la douceur avec sa sœur Lily. Et on voit qu'il n'est pas seul, que tous ses amis sont des rescapés. Tous ses amis ont des blessures. En particulier, on parle d'un certain Lane, qui est son meilleur ami, et on va découvrir que sa blessure est un peu plus grave que celle des autres. Et dans cette partie, le temps passe, et peu à peu, on voit que Brady change, ses cheveux poussent, il remet son chapeau, il va voir Lane, et il se bat, dans cette scène intéressante, il se bat avec un de ses amis au saloon, parce qu'il a l'air d'embêter sa sœur, mais on comprend bien qu'en réalité, c'est pas du tout parce qu'il embête sa sœur, mais c'est aussi parce que bah, l'autre est capable de faire du rodéo, vient de faire du rodéo sous ses yeux, l'autre est encore le cow-boy florissant, lumineux, alors que Brady n'est que l'ombre de lui-même. S'ouvre alors une deuxième partie, un deuxième acte, qui serait la tentation d'un retour au cow-boy du passé, versus la réalité, la dure réalité de son corps, qui le rattrape sans arrêt. Donc on est à la fois du côté de l'idéal de Brady qui veut bah voilà, remonter les chevaux, et en même temps de cette main qui se crispe, de la chute du cheval au moment où il pensait retrouver les sensations. Donc ça, c'est toute la deuxième partie, c'est vraiment le cœur du film, jusqu'à ce qu'il s'effondre, qu'il aille à l'hôpital, une sorte de retour finalement assez classique à l'état initial, dans l'impossibilité de le dépasser. Et enfin, un troisième acte qui c'est plus une sorte de renoncement, voilà, qui commencerait par la blessure d'Apollo, qui est vraiment le double. D'ailleurs, il le dit lui-même dans les dialogues, c'est presque un peu didactique. On avait compris que le cheval était le double de lui-même, donc il explique que le cheval, au fond, bah, voilà, a été blessé, il meurt. Lui, il a été blessé, on l'a pas tué, mais c'est tout comme. Donc Brady se rend au rodéo, et c'est le climax du film, donc le point culminant où Brady doit choisir entre faire une nouvelle fois retrouver sa passion, le rodéo, et peut-être en mourir, ou alors retourner vers sa famille et passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire dans la barrière de la réalité. Donc c'est bien cette opposition entre rêve et réalité qui va nous intéresser, et c'est d'ailleurs ce qui est aussi expliqué dans les dialogues à la fin, puisque autant son ami Cal, en lui faisant un tatouage, lui dit bah, il faut que tu lâches prise, il faut que tu acceptes que ce n'est plus qu'une illusion. Autant Lane lui dit, bah non, il faut croire en ses rêves, il faut aller au bout de ses rêves. Donc cette dialectique est présente à la fois dans les images, dans les dialogues, entre les personnages, le personnage et ses amis. Alors, un petit plan pour annoncer de quoi je vais parler. D'abord, le réalisme du film, l'inspiration et la méthode de Chloé Zhao. Ensuite, le genre même du film, qui est une sorte de western, puisque si ça se passe dans les lieux du western, c'est un western déwernétisé, il n'y a plus rien finalement qui en reste. C'est plus un film sur la maladie que sur le cow-boy en soi. Et enfin, le style de cette réalisatrice, une esthétisation du réel. J'ai défini ça comme ça pour l'instant.